Bonjour, c'est un événement passé presque inaperçu, le Forum Social Mondial de Dakar s'est terminé vendredi. 5 jours de réflexion, 5 jours de débat, 5 jours d'énergie perdue aussi, diront certains. Les dirigeants de la planète ont le Forum Économique Mondial de Davos, les mouvements sociaux et altermondialistes, eux, ont le Forum Social Mondial de Dakar. Nous allons vous faire découvrir des interviews, des reportages inédits, réalisés sur place par une journaliste française. Le meilleur moyen de découvrir l'ambiance de Dakar et de son Forum Social Mondial, le meilleur moyen aussi de comprendre sur le fond ce qui s'est dit pendant 5 jours, parmi les questions que nous allons poser, le Forum Social Mondial est-il vraiment utile et constructif? Et puis, puisque nous sommes à Montpellier, des acteurs sociaux de la ville nous ont donné leur position sur ce rendez-vous altermondialiste géant. Le fil rouge de l'émission, notre invité, Jean-Philippe Martin, professeur d'histoire au lycée Jean Monnet, spécialiste de la gauche paysanne et des thématiques agricoles.
Bernard Salamand est un homme pressé, tellement pressé que c'est dans un taxi entre l'université où se tient le forum et l'hôtel où doit se dérouler une nouvelle réunion que je prends le temps de poser quelques questions à ce tout nouveau président du CRID. Le CRID, c'est un collectif d'une cinquantaine d'associations et d'ONG agissant toutes dans le secteur de la solidarité internationale. Des membres aussi divers que la Ligue des droits de l'homme, Greenpeace ou le Secours catholique en font partie et c'est ainsi que le CRID occupe une place importante dans l'organisation du Forum Social Mondial.
Le CRID a participé depuis le début à l'organisation au Forum. Il est membre du Conseil international depuis quelques années maintenant. Il a deux représentants au Conseil international des Forums Sociaux. Et on est parmi les centaines d'organisations de ce Conseil. Hein. On est une petite partie de tous ceux qui pèsent dans l'organisation générale. Par contre, on a un rôle très important au niveau de la délégation française au Forum Social, puisque depuis le début, on est le CRID des pilotes de cette délégation. Ça veut dire qu'il organise la venue et le séjour des militants et salariés de ces associations membres, mais aussi de la plupart, d'une grande partie des organisations françaises qui viennent au Forum.
Le Forum Social est un espace de discussion sur un peu tout, dans à peu près toutes les langues. Cette réunion internationale est parfois l'objet de critiques de la part de certains qui considèrent cet événement comme une perte de temps, des réflexions et des échanges n'étant pas toujours suivis d'action. Une accusation à laquelle répond le président du CRID.
On se voit avec ce temps fort du Forum Social Mondial, c'est une grosse semaine tous les deux ans. Le reste du temps, il y a des forats thématiques, il y a des forats continentaux ou nationaux. Mais je dirais le temps de la réflexion collective partagée par rapport au temps que chaque organisation met dans l'action est tout à fait marginal. Ça n'empêche en rien l'action, au contraire, ça la renforce à deux niveaux. Le premier, c'est que pour ce qui est de la solidarité internationale, quand on n'est que sur l'action, on fait parfois des conneries. En France, il y a le syndrome Arche de Zoé. C'est un très très bon exemple de ce qu'on peut avoir quand on réfléchit après avoir agi, alors qu'on aurait mieux fait de réfléchir avant. Et puis il y a aussi le fait qu'on puisse réfléchir à cette occasion-là à l'échelle où les problèmes sont posés, c'est-à-dire à l'échelle du monde. On discute entre gens qui ont le même type d'action sur des territoires très différents. Mais qui peuvent partager énormément de choses. Et pour ça, il faut se voir, il faut se rencontrer, il faut prendre le temps de la connaissance mutuelle, il faut prendre le temps de mettre un peu en danger les certitudes qu'on a et les confronter à celles du copain et d'en ressortir bien plus costaud. On est condamné à s'entendre sur cette planète Terre. Alors il y en a à qui ça ne fait pas plaisir et ce n'est pas une perspective qui leur plaît et donc ils préfèrent ériger des murs pour garder leurs privilèges. Des murs qui peuvent s'agir de forteresses contre les mouvements de personnes et les migrations. Ça peut être des murs idéologiques pour certains, ça peut être le mur de l'argent aussi. Nous, on considère que c'est des ponts qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il y a encore de la place pour une vie valable pour chaque être humain de la planète, largement.
Les altermondialistes du monde entier espèrent que ce forum social mondial de Dakar fera date. En effet, lors de cette édition, l'accent est mis sur les perspectives d'action.
Maintenant, on va passer à des assemblées de convergence pour l'action. C'est-à-dire qu'on va demander aux acteurs des forums de dire sur quoi, en quoi et quel mode ils pourraient peser mieux ensemble sur la problématique des paradis fiscaux ou sur la problématique d'une économie réellement verte ou sur la problématique de la réponse au G8, au G20, etc. En quoi, alors qu'on a 100, 150 organisations qui se déclarent actives sur ces sujets-là, on peut, en prenant notre temps, trouver des modes d'action qui sont convergents pour que ce soit plus unitaire et en tout cas que ça atteigne une masse critique, qui soit plus efficace. Ça, c'est nouveau et ça va commencer avec ce 10e forum à Dakar. On verra ce que ça donne.
Donc c'est un peu la particularité de ce forum, il sera plus centré sur l'action.
Voilà, tout en clairement prenant le temps de la réflexion et en s'autorisant la diversité. Ça, il ne s'agit toujours pas, et ça c'est interdit dans la charte des forums, de produire un programme d'action qui s'imposerait à tous. Mais par contre, si à la sortie de ces assemblées, on a des réseaux qui ne se connaissaient pas ou peu, qui se sont engagés à faire des choses ensemble dans l'année ou les deux ans qui viennent, et bien là, on aura gagné quelque chose.
Je m'appelle Gwenaëlle de Jacquelot, je suis chargée de mission à la CIMAD au service des solidarités internationales, et donc je travaille en Afrique de l'Ouest depuis 2 ans dans le cadre d'un projet de défense des droits des migrants dans les pays de transit et de départ.
Et aujourd'hui, quelles sont vos actions ?
Aujourd'hui, en tant que CIMAD, on travaille avec des partenaires dans 6 pays, dont le Maroc, l'Algérie, le Niger, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, pour faire un peu l'état des lieux de la situation des migrants et des politiques migratoires au sud et voir l'impact des politiques de l'Union européenne dans ces pays-là et promouvoir le droit des migrants.
Aujourd'hui, vous avez un exemple qui peut illustrer ?
Alors aujourd'hui, nous, pour exemple, on a animé un atelier le lundi 8 où on a fait un focus sur les migrations intra-africaines et quelles étaient les entraves à la libre circulation du fait des politiques de l'Union européenne. Donc on a vu qu'aujourd'hui, les politiques de l'Union européenne ne sont plus simplement en Espagne ou dans les pays de l'Est, mais que par ces politiques et l'instrumentalisation de l'Union européenne, les frontières sont de plus en plus au sud. En 2005, elles étaient au niveau du Maroc, en 2006, elles étaient au niveau de la Mauritanie, et aujourd'hui, on peut dire qu'elles sont au sud du Mali.
Vous avez quelques chiffres clés à nous annoncer ?
Nous, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'était vraiment déconstruire les idées reçues. Parce que depuis quelques années, on a l'impression que les migrations sont des migrations de l'Afrique vers l'Europe, comme s'il y avait une immigration massive des Africains vers l'Union européenne. Alors que les derniers chiffres officiels de 2000 montrent que les immigrés subsahariens représentent simplement 4% des immigrés dans l'espace de l'OCDE. Alors que 69% des migrations sont des migrations sud-sud, c'est-à-dire que les personnes migrent d'abord dans un pays voisin avant d'aller dans un autre espace géographique et que en Afrique de l'Ouest, elles représentent 87% des migrations. On a eu un atelier donc ce matin animé par la CIMAD et des partenaires africains sur l'instrumentalisation des politiques européennes à des fins de contrôle migratoire. L'Union européenne opère aujourd'hui un véritable chantage envers les pays du Sud pour gérer les flux migratoires. Et donc, en gros, c'est si les États du Sud gèrent leurs flux migratoires, donc enferment leurs ressortissants dans les propres frontières, l'Union européenne sera plus, on va dire, développera ou favorisera l'aide au développement à l'égard de ces pays-là. C'est ce qu'ont beaucoup d'associations ont voulu dénoncer. Et il y aura donc, face à ce constat, 2 campagnes qui vont être lancées, une sur la liberté de circulation et l'autre qui sera quelle mobilisation sur les gros événements où les migrations seront au cœur des politiques. On pense au G8, au G20 et à la 3e conférence euro-africaine.
Bonjour, je m'appelle Alice Coat, je suis volontaire de Solidarité Internationale au Sénégal sur une mission de 2 ans en appui aux acteurs de chantier de jeunes sénégalais. Donc voilà, donc moi en fait j'étais là pour identifier un petit peu justement les associations qui accueillent des chantiers de jeunes français au Sénégal. Chantier de jeunes, donc c'est des échanges entre jeunes français et jeunes sénégalais, notamment échanges interculturels, mais c'est aussi donc des jeunes qui viennent pour faire des projets divers et variés dans un petit peu tous les domaines, mais principalement de la construction d'écoles, de bibliothèques, de salles informatiques, de cases de santé, Voilà, et pas mal de projets aussi dans le domaine de l'environnement, notamment de reboisement au Sénégal. Donc d'identifier ces acteurs, de les mettre en réseau pour un échange de pratiques, d'expériences, d'outils, de compétences. Voilà, et créer un centre de ressources autour de la question des chantiers de jeunes au Sénégal, justement pour aider toute association qui souhaiterait monter un chantier et qui savent pas, qui souhaiterait monter un échange entre des jeunes français et des jeunes sénégalais et qui ne savent pas trop comment s'y prendre.
Et vous avez un exemple concret, récemment un chantier qui a été validé ?
Des chantiers, il y en a un petit peu toute l'année. La grosse période, c'est surtout l'été et surtout pendant les vacances scolaires puisque les Français partent quand ils sont disponibles. Voilà. En fait, il y en a un petit peu partout. Récemment, il y avait un projet justement de reboisement dans le Siné Saloum, reboisement de la mangrove.
Sont des actions générales d'entraide entre les groupes, mais nous avons aussi des axes de travail très particuliers qui sont l'éducation, la santé, la finance éthique, l'accès à l'eau et la libre circulation des personnes. Alors ce qu'on attend du forum, c'est, il est important en nombre, ce qu'on espère c'est que par rapport à d'autres lieux de rencontre, il y a des personnes qui n'aient jamais fréquenté les forums parce qu'il y a quand même beaucoup d'habitués qui sont déjà des gens très bien informés, convaincus de tout un tas de sujets. Donc c'est pour ça que c'est important de faire un forum ici, c'est qu'on puisse échanger avec des gens qui n'ont pas la possibilité ou la d'échanger habituellement. Donc par exemple, tous les Sénégalais qui seront là, évidemment, pour eux je pense que ce sera très intéressant, et pour nous aussi. Alors pour nous, on est confronté à cette question de la circulation des personnes, je dis bien question, pas un problème, depuis plus de 20 ans à Emmaüs. C'est-à-dire que pour nous, l'analyse des causes, des conséquences, c'est des choses qu'on a déjà dépassées. Et on a vu aussi tout le désastre que c'est chez nous, parce qu'on ne sait plus du tout ce que signifie l'accueil, enfin bref, je ne fais pas de cinéma, alors que dans d'autres pays où on travaille, je pense en Inde ou au Brésil, il n'y a pas de question des migrants. Les migrants, c'est ceux qui ont produit cet essor du pays, bon, si on parle du Brésil par exemple. Donc nous, cette question, elle est vraiment dépassée. Fermer les frontières, tout ça, ça n'a plus de sens. D'abord, ça ne sert à rien, ça coûte cher, c'est nul, ça tue des gens. C'est l'illusion, on croit qu'on va, ça a été dit tout à l'heure, qu'on va maintenir des frontières étanches, ça marche pas, c'est zéro. Par contre, tous ceux qui ont ouvert, qui accueillent, pour eux, ils en bénéficient, ils se développent, et tous ceux qui peuvent, grâce à l'ouverture des frontières, venir, ils en profitent, et ils peuvent à leur tour développer, c'est ça le fondement. Et pour un monde dont on sait très bien, on en est tous convaincus, que ce sera un monde d'échange plus encore qu'aujourd'hui, marchandises et tout le reste, ce sera encore un monde d'échange d'informations, il y aura des nouveaux moyens, il y aura de la circulation, c'est ça qui est facteur de développement. C'est pas la fermeture, et ceux qui ferment, ils vont s'enterrer tout seuls. Et nous, on n'a pas envie que ça arrive dans les pays du Nord, parce qu'ils ont des choses aussi à communiquer aux autres, et on n'a surtout pas envie que les pays du Nord freinent cette possibilité des pays du Sud à s'ouvrir, parce que c'est quand même dur pour eux. En une minute, il faut tous se préparer demain à la libre circulation, mais il faut d'abord, pour dans un certain nombre de pays, travailler à déconstruire les mythes et les fausses informations. La peur, c'est quelque chose de calamiteux. Ceux qui ont peur, ils ne préparent pas l'avenir. Ils vont se faire ratatiner. C'est tous ceux qui ont de l'espoir qui réussiront quelque chose. Et ça, c'est un fondement très important si on veut commencer ensemble à réfléchir à la libre circulation.
Je m'appelle Mouadji Djanka. Je suis responsable des projets de la Fédération des associations des villages et communes de la région de Matam en France. Donc depuis en fait 2008, je me suis associé à des personnes de bonne volonté qui s'activent dans le domaine de l'insertion, l'intégration, le co-développement, donc dans le domaine de la migration et développement en France pour contribuer à ma façon et dans la limite de mes possibilités aux actions de développement de mon village d'origine, de ma région d'origine et de mon pays d'origine. Je suis également membre du Forum des organisations de solidarité internationale ici des migrations, donc Forum, qui est la plateforme nationale des migrants en France. Et je suis auto-entrepreneur en produits équitables.
Aujourd'hui, tu es présent sur le Forum social mondial qui se tient donc à Dakar. Quelle est ton action et quel est ton but ?
Il y a eu deux parties en fait. La première, c'est la participation à la rédaction de la charte des migrations. C'était du 2 au 4 à l'île de Gorée, donc qui est un lieu symbolique. Nous avons intitulé ça le retour vers l'humanité parce que justement, c'est à partir de l'île de Gorée que l'humanité a été volée avec le trafic inhumain dans des conditions catastrophiques où l'Afrique a perdu tous ses bras valides par nous-mêmes, par le migrant qui est au centre. Parce que jusque-là, en fait, les textes qui existent, les conventions internationales qui existent ont été rédigées par les organisations internationales. Donc, sauf que jusque-là, le migrant lui-même n'a pas été impliqué. Et donc, ces textes, malgré qu'elles émanent d'institutions reconnues par tout le monde, ne sont pas respectés. Voilà, ni la Convention de Genève, ni la Convention du droit du travailleur des migrants. Voilà, donc nous avons dit qu'il faut que nous, migrants, on rédige une charte nous-mêmes qui va porter la marque de fabrique du migrant à laquelle tout le monde va adhérer. On va faire adhérer les migrants, mais aussi les non-migrants, mettre en avant nos propres préoccupations.
On tourne sur le plateau de Divergence FM dans le studio. On a écouté pas mal d'enregistrements, pas mal de reportages faits à Dakar, des reportages inédits exprès pour nous. On en écoutera d'autres d'ici quelques instants. Notre invité, comme promis tout à l'heure, Jean-Philippe Martin, bonjour.
Bonjour, oui.
Qui était subjugué par tous les sons qui rêvassaient un petit peu. Professeur d'histoire au lycée Jean Monnet à Montpellier, auteur du livre La Nouvelle Gauche Paysanne, qui a participé également à l'ouvrage collectif L'altermondialisme en France. C'est un peu pour tout ça qu'on voulait vous recevoir. Et une première question qui est très très simple, mais on aimerait connaître, vous, votre avis sur tout ce qu'on vient d'entendre. Comment vous réagissez à tout ce qu'on vient d'entendre depuis tout à l'heure ?
Bien. À partir des petits reportages, moi je vois quatre défis qui sont posés à la fois à la Confédération Paysanne et la Via Campesina, qui est son organisation internationale.
Les thématiques agricoles sont des choses qui vous tiennent à cœur, hein, on va en reparler tout à l'heure.
Oui, et au mouvement altermondialiste. Premier défi, c'est la localisation du Forum social mondial en Afrique. Il y a 2 ans déjà, le mouvement Via Campesina avait tenu une conférence à Maputo, au Mozambique. L'idée, c'est essayer de toucher un peu l'Afrique qui, pendant longtemps, était terre inconnue pour les altermondialistes. Ça, c'est le premier défi majeur. Deuxième défi, c'est construire, passer du constat à des perspectives d'avenir, des perspectives d'action, qui est un peu en débat, sans tomber dans un programme ficelé qui soit trop contraignant, ce que dit le militant du CRID au début.
Celui qui était dans le taxi.
Oui. Troisième défi, c'est la question d'essayer de dépasser les militants chevronnés. En regardant sur les photos hier, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de militants que je connaissais. Donc, il faut peut-être pour l'altermondialisme, les militants altermondialistes, essayer de toucher, de faire venir des jeunes. Et lié à cela, c'est la place des femmes qui n'est pas évoquée dans les reportages, mais sur lesquelles je pense qu'il faudra revenir En termes de projet, et je vois que Libération de ce matin, d'ailleurs, signale qu'il y avait pas mal de femmes.
On précise de Libération de ce lundi.
De ce lundi, oui, pardon.
On a écouté justement tout à l'heure Jean Rousseau, le président d'Emmaüs International, qui lui parlait de cette problématique des forums sociaux mondiaux, où finalement c'est toujours un peu les mêmes têtes, ce sont des visages connus, et c'est difficile de trouver de nouvelles personnes, de nouvelles réflexions, etc. Donc c'est ce que vous aussi vous dites.
Je n'y étais pas, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Sauf que en lisant la presse ce week-end et en me rappelant du Forum social mondial de Mumbai, Bombay, en Inde, ce qui avait surpris quand même les militants chevronnés aux cheveux blancs, c'est l'irruption des pauvres et des couches sociales défavorisées à l'intérieur du Forum social mondial de Bombay, qui avait un peu perturbé le fonctionnement. Et là, c'est aussi, d'après ce que j'ai lu, lors de la manifestation, la partie d'Africains qui n'étaient pas des intellectuels militants depuis très longtemps.
Donc on parlait tout à l'heure de Libération de ce lundi. Je précise que l'émission est enregistrée lundi, qu'elle est diffusée mardi. C'est pour ça que je fais cette précision en termes de date. Donc si vous écoutez cette émission, c'est le Libération d'hier qu'il faut retrouver. On parlait de la place des femmes justement dans ces problématiques du Forum social mondial. C'est aussi évidemment quelque chose qui tient à cœur beaucoup de militants ou d'observateurs de ces mouvements sociaux altermondialistes. Est-ce qu'on voit une évolution en à peine une décennie de Forum social mondial sur les réflexions entre les rapports hommes-femmes ou autrement dit les rapports transgenre, comme on dit des fois de manière plus technocratique. Sourire se dessine sur votre visage.
Oui, ma compétence est limitée, je vais dire, au mouvement international paysan qui s'appelle Via Campesina. Et là, effectivement, c'est assez amusant d'ailleurs. Il y a la volonté de mettre en avant les femmes à l'intérieur des organisations et de mener, c'est une des trois grandes campagnes de Via Campesina, la lutte contre les violences faites aux femmes, pas seulement en Afrique, en Amérique latine, en Asie, aussi en Europe, hein, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Mais donc c'est une des grandes campagnes qui est menée par Via Campesina.
Mouvement paysan international, c'est comme ça qu'ils se définissent.
Oui, tout à fait. L'idée c'est que les femmes produisent 70% de la nourriture de la planète, mais qu'elles sont marginalisées, opprimées et menacées à la fois par le néo-capitalisme ou le néolibéralisme, comme disent les militants anciens, mais aussi par le patriarcat, c'est-à-dire que donc c'est aussi une remise en cause des mentalités, une volonté de changer les mentalités et cette volonté de la... Bon, je regardais les banderoles hier par Internet, hein. C'était présent dans les banderoles de Via Campesina et donc je pense qu'il y a du travail à faire et c'est assez intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur du mouvement, cette volonté de ne pas séparer le privé et de dire que le privé est aussi une question politique, hein, c'est qu'à l'intérieur du mouvement, ça s'est posé aussi. J'ai rencontré il y a un an Josy Riffaut, qui est une responsable de la Confédération paysanne qui s'occupe de l'international, qui me disait que, je crois que c'est en 2006 ou 2005, Via Campesina décide que au Congrès, maintenant, il y aurait un homme, une femme. Et un jeune. Et bon, ils imposent ça de manière assez autoritaire, ce qui a à la fois un bon résultat, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un homme, une femme, un jeune lors des assemblées, mais ce qui pose des problèmes pour que les femmes ne soient pas seulement un élément du décor, hein, mais interviennent, etc. Et surtout que, bon, alors il y a tout un débat, les femmes n'interviennent pas aussi facilement que les hommes, quand elles n'ont rien à dire, elles laissent la parole aux hommes. Enfin bon, il y a tout un débat, mais qui est riche, qui est prometteur.
C'est dingue comme vous souriez depuis tout à l'heure en parlant de tout ça.
Oui, parce qu'on voit les contradictions à l'intérieur même du mouvement. Et ma foi, je trouve que c'est plutôt positif, plutôt que dire on va transformer les choses demain quand on sera au pouvoir ou quand on aura fait avancer nos revendications. Le mouvement est en cours de construction et avec des tensions internes assez, assez amusantes.
On va retourner à Dakar, on va écouter des enregistrements à nouveau de cultivateurs, d'éleveurs français ou sénégalais qui étaient présents à Dakar. Ça va nous donner un aperçu un peu plus concret parfois sur ces thématiques agricoles. Mais juste avant de retourner à Dakar, un dernier point, le Forum social mondial de Dakar, c'est terminé vendredi, c'était il y a à peine quelques jours. Via Campesina fait déjà un point sur les choses à venir, ou là, vu votre tête, non. Mais est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont envisagées à partir du bilan qui a été fait sur Dakar pendant ces 5-6 jours à Dakar?
Je pense qu'il y a une campagne qui est lancée contre l'accaparement des terres, sur laquelle on reviendra, hein, des campagnes vraiment paysannes, une campagne sur la souveraineté alimentaire. C'est deux problèmes très importants en Afrique en particulier. Et puis cette campagne contre les violences faites aux femmes, avec un autre projet dont je n'ai plus tout à fait en tête la teneur.
Allez, c'est pas grave, on va parler agriculture à présent.
Je m'appelle Dabandour. Je viens de la chèvrerie de Sap appartenant à la formangerie de Dilor Saloum. Je suis transformateur de lait. Je fais partie de l'équipe qui transforme le lait en fromage et en yaourt. Chaque matin, on peut transformer plus de 20 litres de lait en yaourt et 10 litres de lait en fromage. La boîte Charente nous aide beaucoup parce qu'il nous aide à faire la transformation, parce qu'on ne savait pas la transformation du lait, mais maintenant, on sait comment faire avec le lait de chèvre et le lait de vache aussi. Ça nous a apporté beaucoup de choses, beaucoup de bonheur, parce qu'auparavant, on ne mangeait pas le lait de chèvre, on le jetait là-bas. Mais maintenant, on sait ce que ça va nous donner. Donc maintenant, nous utilisons le lait de chèvre comme nous voulons, en le transformant en fromage ou bien en lait yaourt. Parce que beaucoup de familles maintenant peuvent nourrir leur famille à cause du lait.
Je suis Madame Nying Monsandour, chargée de programme au niveau de l'ONG Agricole Afrique.
Et quelle est l'action exactement que vous menez ?
Nous sommes dans la promotion de l'agriculture biologique et du commerce équitable. Nous sommes basés à Thiès. Et nous travaillons avec des groupements de producteurs. En un moment de l'année, les producteurs ne pouvaient plus accéder à leurs produits même parce que les banabana venaient juste après la récolte, qui souvent coïncidait avec l'ouverture des classes. Le producteur n'étant pas encore entré dans la campagne de commercialisation, était obligé de vendre ou bien de bazarder même ses récoltes pour avoir au moins de l'argent pour faire face aux charges scolaires de ses enfants. Quelquefois aussi, c'est des charges de santé durant l'hivernage qui poussaient le producteur à vouloir commercialiser le plus rapidement possible. Donc ces banabana venaient récupérer le maximum de produits, les stocker pour un moment, le temps que le producteur ne dispose plus du produit pour revenir encore le revendre deux ou trois fois plus cher. Et ça posait problème, ça enfonçait le paysan, sinon le producteur, et le mettait dans un circuit infernal. Il courait toujours autour d'une dette et ne pouvait jamais satisfaire ses besoins, c'est-à-dire ses besoins primaires. Tout ce qui était alimentation, tout ce qui était santé, scolarité, habitat même lui posait problème, alors que ses produits restaient à longueur de saison au niveau des marchés. Le forum va changer ce que nous sommes en train de promouvoir. Enfin, ce n'est pas ce qu'il va changer, mais c'est ce qu'il va appuyer. Parce qu'au niveau local, nous sommes en train de lutter pour que le producteur puisse vivre de sa récolte, ou bien de son produit. Le forum vient en appui à cette lutte. Renforcer le commerce équitable au niveau local d'abord, parce que même au niveau local, les gens ne comprennent pas. Souvent, vouloir acquérir le produit au plus bas prix les pousse à vouloir ou bien à oublier même le droit du producteur. Et ça pose problème. Mais même au niveau de nos gouvernants, si on prend l'exemple de la commercialisation de l'arachide, qui est la campagne de commercialisation est fixée par le gouvernement. Dans la négociation de la date, le producteur n'est pas impliqué. Dans la fixation des prix, il n'est pas impliqué. Et donc, dans aucune étape du processus, le producteur n'est impliqué. Et il subit. Donc, ça veut dire que ils produisent, mais ils ne maîtrisent même pas la chaîne de commercialisation, alors qu'ils sont ils devaient être les vrais acteurs. Donc, ce forum vient en appui pour au moins parler et faire changer les démarches, sinon les politiques qui sont en train d'être appliquées au niveau du Sénégal, en tout cas en particulier que je connais le plus, et qui ne sont pas du tout en faveur du producteur, surtout du petit producteur.
Et aujourd'hui, que pensez-vous que le commerce équitable va changer au nord et au sud, par exemple en France, qu'est-ce que ça va changer ?
Ça peut changer beaucoup de choses. Un producteur est un producteur, surtout un petit producteur. Donc ça, au moins, ça va réduire le fossé entre les plus riches et les moins riches, comme on peut les appeler. Donc le producteur, où qu'il soit, en France ou bien aux États-Unis ou bien en Afrique, d'accord, il est plus faible au niveau de l'Afrique, mais quand même, le fossé est toujours entre ceux qui produisent et ceux qui veulent reprendre ou bien ceux qui veulent s'approprier du produit à un prix moindre qui n'arrange pas le producteur. Donc le forum est là pour tout le monde, c'est un forum mondial. Il doit être vraiment un outil pour tous les producteurs du monde. Nous, producteurs du monde, nous devons parler un même langage, avoir un seul message, vouloir pouvoir être à mesure de vivre de nos produits, être à mesure de vivre à partir du fruit de notre travail. Donc c'est la dignité que nous réclamons et c'est ça tout simplement ce que nous voulons pour tous les producteurs du monde.
Des reportages inédits faits au Forum social mondial de Dakar il y a à peine quelques jours. Jean-Philippe Martin, professeur d'histoire, je le rappelle, et auteur du livre La Nouvelle Gauche Paysanne. Comment vous réagissez à tous ces enregistrements qu'on vient d'entendre, ces personnes qui s'expriment et qui ont justement des choses très très concrètes, parce que là, elles parlent de leur quotidien au Forum social mondial.
Oui, pour revenir sur la discussion tout à l'heure, on constate que c'est deux femmes, hein, une agricultrice qui transforme du lait de chèvre en yaourt ou fromage et du lait de vache, et une responsable d'une association Agriculture Afrique, hein, donc deux femmes.
On parlait de la culture de l'arachide aussi.
Oui, effectivement. Donc des femmes qui sont actives à la fois dans la production, mais aussi dans les réseaux militants. Hein. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, le deuxième reportage, hein, où petit à petit on voit un certain nombre de choses qui se mettent en place dans le discours de la responsable de l'association. Hein. C'est à la fois la question de quelle est la place du producteur dans la chaîne de commercialisation. Hein. L'idée que finalement les producteurs agricoles sont dominés soit par les grandes entreprises à qui ils vendent leurs produits, soit par les commerçants, etc. Hein. Cette idée de perte d'indépendance en quelque sorte. Deuxième chose, c'est l'idée que le consommateur qui cherche les plus bas prix, y compris en Afrique, quels sont les plus bas prix en Afrique ? Elle ne le dit pas, mais c'est effectivement les produits vendus grâce à l'aide aux exportations par les États-Unis ou par l'Union européenne. Et donc, la Via Campesina et la Confédération Paysanne demandent la fin des restitutions à l'exportation qui déséquilibrent les marchés locaux, qui ruinent les producteurs locaux, donc ici les producteurs africains, et qui finalement imposent de nouveaux modes de consommation et déstabilisent les campagnes et les villes, puisque ces producteurs qui ne peuvent pas vivre du fruit de leur travail, comme elle le dit, qu'est-ce qu'ils font ? Les plus jeunes quittent les campagnes, vont dans les villes, et dans des villes qui ne sont pas toujours prêtes à les accueillir. Voilà, donc un certain nombre de problèmes qui m'ont semblé intéressants. Bon, il y a d'autres choses encore, mais peut-être on va en discuter.
On en discute maintenant, justement, on est en plein dedans. Je rappelle simplement, juste avant, que vous êtes un observateur de toute cette vie sociale et agricole et ces mouvements-là. Vous n'êtes pas un militant.
Non,
vous y êtes sensible, voilà, vous êtes un observateur
sensible,
à tout, je
vous
rappelle que vous êtes professeur d'histoire.
Voilà, je suis sensible, j'ai de l'empathie, mais je ne suis pas militant, donc moi quand je travaille sur Beauvais, bon, je suis extérieur à José Beauvais ou à Ibrahim Koulimani, là, qui est le Koulibaly, pardon, excusez-moi, qui est le José Beauvais malien, bon, je regarde ça de l'extérieur, et puis ce que je citais, Ibrahim Koulibaly, c'est un dirigeant malien d'une organisation paysanne qui définit ce que la Via Campesina appelle la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, disait-il en 2007, c'est une alternative à la logique marchande. Il dit que le marché national est inondé par les importations et donc pour lui, il faut modifier, et cela entraîne une modification des comportements alimentaires et ça profite essentiellement aux multinationales. Et donc il faut changer cela, changer les priorités, favoriser les agricultures locales, y compris par des mesures parfois de protection. Pour à la fois ils produisent ce qu'ils savent produire et qu'ils changent aussi leur production. Le premier reportage était de ce point de vue-là intéressant. Il m'a semblé entendre que l'agricultrice qui transformait ce lait de chèvre et de vache disait qu'ils avaient travaillé avec des associations de Poitou-Charentes. Donc Poitou-Charentes, c'est pas n'importe quel département, c'est pas n'importe quelle région, c'est une région française dans laquelle la gauche paysanne est présente depuis très longtemps, même si elle était minoritaire, et où en Poitou-Charentes et puis un peu plus au nord en Loire-Atlantique, il y avait de très nombreux réseaux de solidarité avec l'Amérique latine et puis aussi avec l'Afrique, souvent à l'initiative de militants chrétiens, hein, de ce qui s'appelait à l'époque le mouvement rural, la jeunesse chrétienne.
Ce sont des coopérations à la base ou décentralisées, enfin il y a plusieurs thématiques autour de ces coopérations-là, mais c'est la coopération proche du citoyen, c'est ça dont vous parlez ?
Oui, il peut y avoir à la fois des mouvements de solidarité, on va dire politique, mais aussi des mouvements de solidarité concrète, de la coopération, dans lesquels se sont impliqués beaucoup de ces militants. Et depuis très longtemps, le premier président de la Confédération paysanne a été très longtemps responsable du mouvement rural de la jeunesse chrétienne au niveau international et a passé, je crois, 2-3 ans en Afrique.
Alors, je comprends pas. Là, on est en Languedoc-Roussillon. On a quand même, en termes d'action paysanne, des choses assez fortes. Notre célèbre moustachu habite à peine à quelques kilomètres d'ici. Bon, il est souvent à Bruxelles aussi ou à Paris, mais il est quand même très régulièrement dans le coin. On entend peut-être moins parler, nous, de coopération avec des paysans ailleurs.
Nous, à Montpellier, on est...
Vous souriez pendant cette émission ?
À Montpellier, on est quand même dans la zone viticole qui a d'autres, peut-être, problématiques, d'autres centres d'intérêt où c'est plus difficile. Par contre...
Mais pourquoi on ne travaille pas plus avec des agriculteurs ailleurs sur ces échanges-là, cette coopération-là ?
Je ne sais pas. Soyons francs, je ne sais pas tout. Mais par contre, vous parliez du moustachu du COS. Hier, en regardant le reportage de Via Campesina, reportage photo, hein, on voyait quelqu'un qui s'appelle, je crois qu'il passe après, Christian Rouquayrol.
On va l'écouter tout à l'heure.
Bon, donc, qui est un militant du LARZAC depuis déjà plusieurs dizaines d'années et qui donc porte toujours cette idée que lutter ici, c'est aussi lutter avec ceux qui sont ailleurs pour transformer la société, pour essayer d'améliorer la condition paysanne, des producteurs et des petits producteurs.
Je m'appelle Christian Rouquayrol, je suis éleveur de moutons dans le sud d'Aveyron et je suis membre de la Confédération Paysanne et de la Via Campesina. On est venu ici à cette paysanne de la Confédération Paysanne Nationale pour surtout parce qu'on était intéressé par ce débat et cette lutte contre l'accaparement des terres qui concerne beaucoup de paysans en Afrique et même en Amérique du Sud. Et ce problème donc est un problème relativement récent parce que c'est un problème qui est arrivé à peu près il y a 2 ans, qui est sans doute la résultante à la fois de la crise alimentaire de 2007 où il y a eu des manifestations des émeutes de la faim et à la fois de la demande, de la crise de l'énergie, de la demande des agrocarburants. Donc c'était un phénomène dont la résultante est l'accaparement de terres de petits paysans par des grandes firmes privées ou par des États étrangers qui viennent comme la Chine ou la Libye ou l'Arabie Saoudite qui veulent produire leur nourriture dans d'autres États où il est facile avec la complicité des gouvernements locaux et avec la corruption de s'accaparer des terres des petits paysans. Et ce phénomène est très grave parce que moi je dis que c'est un véritable crime contre l'humanité parce qu'il concerne d'ores et déjà en moins de 2 ans 50 millions d'hectares de terres qui ont été spoliés aux petits paysans. Il faut savoir qu'un petit paysan en Afrique a besoin de 2 hectares pour vivre à peu près, donc imaginez, si on multiplie par le nombre d'hectares, le nombre de paysans qui sont des chômeurs actuellement, des gens à la rue qui vont aller dans les bidonvilles en ville et qui n'ont aucune indemnisation hein, parce qu'ils n'ont pas de titre de propriété, ils sont là de manière ancestrale mais il n'y a pas d'acte de propriété sur la plupart des pays africains. Ça se passe comme ça, donc on est là pour dénoncer ça et pour essayer de faire un mouvement fort pour arrêter cette chose. Alors il y a à différents niveaux, il y a des actions prévues. Déjà les paysans locaux commencent à se grouper et Via Campesina les aide à faire ça puisqu'on est présent dans pas mal de pays d'Afrique. Donc on essaye de localement, donc nos correspondants locaux qui sont des paysans hein, de ces pays, par exemple au Mali, organisent des résistances. Il y a des paysans qui au Mali ont résisté à l'accaparement de terre d'une firme libyenne, enfin une firme d'État libyenne, en fait c'est directement Kadhafi qui est concerné. Et ces gens, quand ils ont essayé de résister, ils ont été encerclés par l'armée, bastonnés et certains emprisonnés. Il y a eu des blessés, il y a même une femme qui a fait une fausse couche. Enfin, il y a eu vraiment des événements graves, donc il y a un procès qui se prépare et on est en train de préparer ce procès. Et on propose aussi, nous, de grouper toutes les ONG, et tous les partis, tous les gens qui se sentent concernés par ça sur un appel qu'on va appeler l'appel de Dakar, qu'on va finaliser donc à l'Assemblée des Convergences qui aura lieu à la fin du sommet, qui va demander à ce que cessent ces expropriations et à ce que les institutions internationales prennent les choses en main, que la FAO travaille enfin sur un texte pour la protection des droits des paysans, ce qui est en cours actuellement, mais qui nous semble être un peu trop faible au niveau des intentions, donc on veut qu'il soit renforcé. Donc c'est à différents niveaux, mais c'est surtout renforcer les luttes paysannes dans un premier temps et la solidarité internationale.
Christian Rouquayrol, membre de la Confédération Paysanne et de Via Campesina. Une réaction, Jean-Philippe Martin?
Oui, dans ce reportage, en fait, il aborde le troisième grand thème de Via Campesina, hein, c'est la lutte contre l'accaparement de terres. Je crois qu'il explique assez bien de quoi s'agit-il. Ce sont des États qui sont dépendants sur le plan alimentaire ou qui ont privilégié d'autres formes de développement, comme la Libye, comme la Corée du Sud, comme je crois aussi la Chine, qui achètent des terres ou louent à très long terme. Des terres essentiellement en Afrique, au Mali, au Niger, à Madagascar. On estime à plusieurs dizaines de millions d'hectares les terres qui ont été ainsi acquises dans des pays du Sud et beaucoup de pays africains.
Par exemple, au Mali, l'Office du Niger.
Oui, et ces terres sont acquises souvent parce qu'effectivement, il n'y a pas de titre de propriété ou c'est une propriété ancestrale, etc. Et donc, il y a des luttes qui commencent à s'organiser. Hein. Moi, j'avais pointé qu'au Mali, il y avait un forum qui s'était créé en novembre 2010. Hein, et ça commence à partir d'août 2009, disons, les premières réactions. Et en novembre 2010, il y a un forum qui se tient au Mali pour essayer de dénoncer ces occupations brusque, brutale de terres agricoles par des investisseurs étrangers et pour dire que effectivement ce n'est pas comme ça qu'on obtiendra l'indépendance alimentaire et que c'est au contraire un facteur d'aliénation de la souveraineté nationale Et donc à la fois il y a la défense de la terre, mais à la fois la défense de la souveraineté nationale. Il ne faut pas le voir, je pense, au sens nationaliste étroit, tel que le discours de l'extrême droite aujourd'hui, mais l'idée de pouvoir être indépendant et se construire pour des pays qui sont quand même parmi les plus pauvres de la planète. Donc oui.
Dabandour, Mossandour, Christian Rouquayrol, ces personnes-là qu'on a entendues tout à l'heure, finalement, en filigrane, on entend aussi la même chose, profiter du Forum social mondial pour essayer d'avancer sur des thématiques, sur des actions, pour essayer de faire avancer certaines causes. Mossandour le disait très bien tout à l'heure. Est-ce que le Forum social mondial est vraiment efficace? Est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose au-delà de la création de réseautage? Je vous accable avec ma question.
Oui, là, je pense qu'il est utile, même si c'est vrai que les journaux, les médias français en parlent moins, c'est moins à la mode qu'il y a quelques années, même si effectivement peut-être qu'il attire un petit peu moins de militants, quoique Libération de ce lundi 14 février parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes, hein, quand même. Même si peut-être les processus est beaucoup plus lent, mais je crois qu'il faut peut-être quitter la vision un peu partidaire, c'est-à-dire penser qu'ainsi va se créer un parti qui aura des leaders, des campagnes, qui débouchera sur une prise de pouvoir, etc. Peut-être qu'il faut laisser cette vision 20e siècle un peu de côté et considérer que les choses peuvent être plus lentes, plus éclatées, plus divisées, plus dispersées, mais que ça va dans un sens qui est positif. Et d'autant plus que, effectivement, depuis la crise de 2008, quand même, hein, on se rend compte que les excès du néolibéralisme, que ce soit dans le domaine bancaire, mais aussi dans le domaine agricole, eh bien, ces excès vont dans le sens d'un accroissement des inégalités et d'un appauvrissement d'une partie de la planète qui, me semble, est nuisible.
Donc le Forum social mondial, il faut le voir aussi comme quelque chose de constructif, d'utile. Il ne faut pas simplement voir ça comme un réseau de personnes qui discutent.
Oui, constructif, utile. Je pense que l'échange d'expériences, hein, est utile. Les relations interpersonnelles sont importantes. Et je crois qu'aussi que c'est comme ça qu'émergent des petit à petit des thématiques. La thématique de l'accaparement des terres, je pense que grâce à ce forum, elle va apparaître peut-être plus massivement aux yeux de nombreux habitants du Nord comme nous.
Sur cet échange de pratiques et d'expériences, on écoutait justement tout à l'heure Alice Koa, hein, qui est volontaire Solidarité Internationale au Sénégal, qui parlait dans le même sens que vous. Sur les forums sociaux qui existent depuis, allez, le premier, on le date de 2001, à Porto Alegre, le premier grand, comme ça, un rassemblement mondial. Est-ce qu'on sent une évolution dans le cours de l'histoire sur ces thématiques agricoles, sociales? Ou est-ce qu'une décennie, c'est trop court pour avoir une observation du monde qui change et de ces influences qu'on veut donner dans ces forums sociaux?
En venant vous voir, j'étais en train de me dire, mais que c'était vraiment strictement agricole, pardon, c'est que la thématique des OGM est peut-être un peu laissée de côté. Bon, dans le sens où on considère que c'est des associations qui doivent défendre cela et non plus les syndicats paysans. Hein, et que peut-être d'autres thématiques apparaissent comme celle de l'accaparement des terres.
Pourquoi les OGM, on en parle un peu moins, l'accaparement des terres, on en parle un peu plus? Qu'est-ce qui fait que ça change, ça bouge, ça fluctue?
Ma réponse, elle portera sur le syndicat paysan, hein.
Oui.
Nous sommes d'accord. Je crois que la Confédération paysanne et Via Campesina ne voulait pas être seulement l'association ou le syndicat qui luttait contre les OGM, et qu'il fallait montrer que leur souci, c'est de défendre les paysans, qui sont encore une catégorie sociale quand même très... puissent très nombreuses sur la planète.
puisque nous sommes à Montpellier, nous voulions aussi entendre des intervenants locaux, des acteurs de la vie sociale, politique, associative de Montpellier, pour avoir leur réaction sur le Forum social mondial de Dakar, savoir ce qu'ils en pensaient. Nous avons d'abord rencontré Jean-Claude Favier, il est militant connu, actif depuis des années, hein, difficile de ne pas le connaître, Jean-Claude Favier, à Attaque, à Montpellier. Sa réaction au Forum social mondial de Dakar, avec notamment une précision sur la thématique de l'eau auquel il tient, et sa gestion de l'eau.
Faire le bilan, c'est pour moi très difficile aujourd'hui, puisque je n'ai pas eu l'occasion de lire les comptes rendus venant de Dakar, qui eux-mêmes donneraient la tonalité de ce qui s'est passé là-bas. Ce qu'on a fait cette semaine au niveau d'Attaque Montpellier, c'est qu'on a eu une liaison avec le Forum social mondial de Dakar sur un sujet qui nous préoccupe aussi, c'est sur l'eau. Pourquoi l'eau ? Parce qu'il va y avoir en 2012 à Marseille le Forum mondial de l'eau. Donc l'intérêt, c'était de présenter l'échéance de Marseille et quels étaient les enjeux qui seraient discutés en 2012.
Est-ce que vous avez déjà eu des premiers retours par rapport à cette thématique ?
Les gens avaient l'air assez intéressés, mais ce qui nous a un peu chagrinés, c'est que c'était surtout des Occidentaux qui avaient l'air de prendre la parole et très peu d'Africains, parce qu'eux aussi sont concernés par la mainmise des multinationales sur l'eau que sont Veolia et Suez, qui agissent dans le monde comme ils le font en France. Leur objectif, c'est de faire payer l'eau partout.
Autre Montpellierain qui réagit au micro de Divergence FM sur le Forum social mondial de Dakar, Quentin Allard, il est militant de base, ce n'est pas péjoratif de dire cela, militant au parti de gauche, on écoute sa vision du Forum social mondial de Dakar.
C'est un moment important, à relativiser certes, mais important dans le sens où pour les pays d'Afrique, c'est justement un sommet où les pays africains réaffirme une certaine souveraineté en tant que continent par rapport aux autres continents qui les exploitent au niveau de leurs ressources ou même qui infiltrent leur réseau politique et aussi contrôlent les choses à distance. Donc c'est aussi une manière pour les pays africains de se fédérer et de faire ressortir certaines grandes problématiques qui leur sont propres, c'est-à-dire énergétiques, aussi au niveau de l'agriculture, au niveau du pétrole, au niveau du minerai, au niveau de plein de choses, pour que ils s'organisent collectivement et qu'ils puissent résister face à une menace, face à une stratégie de colonisation ou sinon de contrôle des ressources par soit des grandes entreprises, soit des pays qui sont complices avec ces grandes entreprises comme les États-Unis, la France et j'en passe. Donc voilà, l'enjeu je pense que c'est celui-là et pour les années à venir, il va falloir que les pays d'Afrique puissent, comme le processus a été lancé notamment en Amérique latine, au travers de l'ALBA, c'est-à-dire se fédérer ensemble pour organiser des transitions de régime et surtout se réapproprier les ressources qui leur sont propres et puis ensuite être maître de leur distribution.
Un petit peu essoufflé quant à l'art du parti de gauche, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? Jean-Philippe Martin.
Oui, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce que disait Quentin Allard, c'est que à la fois c'est intéressant, mais il ne faut pas non plus mythifier les forums sociaux mondiaux, hein, parce que les enjeux après la construction des mouvements, ça se passe à l'intérieur des États, hein, et des États nationaux, bien sûr. Hein. Ça, je crois qu'il a tout à fait raison. La thématique portée par Favier me semble aussi des plus pertinentes. Hein, c'est la question de l'eau.
D'attaque, on précise.
D'attaque, oui, pardon. C'est la question de l'eau. Que ce soit dans les pays du Moyen-Orient, en Afrique, mais aussi en Europe. Hein. Il y a eu un certain nombre de débats au sujet de l'Espagne, autour du détournement du cours de l'Èbre, Barcelone qui importe de l'eau de Marseille. Donc il y a un certain nombre de questions là qui sont intéressantes sur le plan agricole, mais aussi au-delà de la question agricole. Voilà, je crois que ce sont des pistes de réflexion qu'il faut développer dans les années à venir.
Ce sont des thématiques qui sont propres à l'aspect paysan en général ou c'est quelque chose qui concerne absolument tout le monde ?
C'est présent évidemment dans les questions paysannes, hein, mais je crois que ça dépasse largement la question paysanne. Là, hein, l'approvisionnement en eau d'un certain nombre de villes, par exemple, aux États-Unis ou en France, la question se pose effectivement de manière assez brutale et risque de se poser de manière assez brutale dans les années à venir.
Vous avez participé à un ouvrage collectif qui s'appelle « L'altermondialisme en France ». Vous parliez évidemment des thématiques agricoles qui vous tiennent à cœur. Est-ce que les gens qui s'intéressent au mouvement altermondialiste, mais qui ne s'intéressent pas aux thématiques forcément agricoles comme vous, ont un regard différent sur les propos que vous tenez ? Comment vous voyez ça ?
L'ouvrage, hein, c'était un ouvrage qui était issu d'un colloque à la Fondation Nationale de Sciences Politiques, si je me souviens bien, hein, qui était entre autres par Nona Maillère. Ce qui était intéressant dans cet cet ouvrage, c'est justement la comparaison de plusieurs secteurs, hein, que ce soit les secteurs, on va dire, ou de plusieurs champs, pour reprendre une autre expression, hein, le champ intellectuel avec le monde diplomatique, le champ syndical avec un article sur la CGT, le champ agricole avec les jeunes, bon, on était deux à intervenir là-dedans, mais ce dont on s'était rendu compte peut-être au cours du colloque, que ce soit en France mais dans d'autres pays, c'est de l'importance des courants chrétiens dans le développement d'un mouvement qui allait plus tard devenir le mouvement altermondialiste, hein, que ce soit dans l'Europe du Nord, évidemment au Brésil avec l'église de la Libération, hein, ou en France, hein, il y a des militants, il y a des réseaux, etc. Et je crois que vous en interviewez, il y en avait un au début, c'était le Secours catholique, il me semble, non, je ne sais plus.
Je ne sais pas, moi je vous écoute. Hein.
Donc, l'importance des réseaux chrétiens, pas seulement des réseaux militants de gauche, etc., comme on les identifie peut-être un peu trop facilement parfois.
Jean-Philippe Martin, professeur d'histoire au lycée Jean Monnet à Montpellier. Je rappelle les deux ouvrages que nous avons mis en avant aujourd'hui. L'ouvrage collectif « L'altermondialisme en France » aux éditions Flammarion. Et puis vous avez publié en 2005 le livre « La nouvelle gauche paysanne » aux éditions La Découverte. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Divergence FM. On ne se quitte pas tout de suite, on retourne à Dakar avec quelque chose de plus léger. C'est pas mal aussi des fois d'un peu moins réfléchir. Des questions toutes simples, histoire de rigoler un peu. Et notre journaliste a demandé à des Sénégalais qui est la femme de Nicolas Sarkozy.
Salut, tu fais la file pour le visa ?
Non, c'est pas pour le visa, c'est pour le t-shirt. On a jamais vu là où on donne le visa gratuitement comme ça. On n'a jamais vu ça. C'est impossible. Il y a des contours, mais on n'y croit pas. Ça n'existe pas. Donner des visas.
C'est de l'arnaque, le concours ?
Non, c'est de l'arnaque. C'est ça que je crois, c'est de l'arnaque. Donner des visas gratuitement, ça n'existe pas. On nous demande de l'argent, etc. 5 millions. 10 millions, etc.
Il y a tout le monde qui fait de la queue là, comme ça. Vous croyez que c'est juste pour un t-shirt ?
Ouais, c'est juste pour un t-shirt. On est comme ça. On aime faire la queue.
Si tu veux, on t'entraîne pour les questions. Quelle est la taille de Nicolas Sarkozy ?
La taille de Nicolas. Taille de Nicolas Sarkozy, bon, peut-être 1m50.
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 Quel est le nom de sa femme ?
Hein ?
Sa femme.
Sa femme.
Son prénom.
Son prénom. Awandjaï.
Non.
C'est pas Awandjaï.
Non.
Hein ?
C'est comment ?
C'est Carla.
Ah, Carla, c'est Carla Sarko.
Non, Carla Bruni Sarkozy.
Ah, Carla Bruni Sarko. Ah, je ne savais pas.
C'est joli.
Ouais, c'est joli. C'est joli quand même.
Le prénom de Sarkozy ?
Jean-Claude.
Jean-Claude Duss ?
Oui.
Il a sa fête le 6 décembre.
Là, pour la fête, je connais pas. Oui, Nicolas, oui.
Oui, c'est Nicolas Sarkozy. Et sa femme ?
Bon, ça m'échappe.
Elle chante.
Qui ?
La femme de Nicolas, elle chante.
Non, vraiment, ouais.
Carla Bruni Sarkozy.
Carla.
Carla Bruni Sarkozy.
Carla Bruni Sarkozy. Ah, okay.
Combien mesure Nicolas Sarkozy ?
Je ne sais pas, mais à peu près, il n'est pas très grand de taille. 1m60. Je le vois jamais vu hein, comme ça, mais par la télé. Disons 60.
Le point sur le Forum social mondial de Dakar, une émission proposée et présentée par Sébastien Nègre, réalisation Monsieur Bruno Bertrand. Merci à Simon Morin qui a participé à cette émission. Sabrina Rondeau, c'est grâce à elle que nous avons pu écouter ses reportages, ses interviews depuis Dakar. Elle est journaliste pour la radio alsacienne Azur FM. Tous ces échanges ont été rendus possibles grâce au travail des fédérations des radios associatives qu'on salue, que ce soit en Alsace, en Languedoc-Roussillon ou au niveau national grâce à la CNRA. C'est grâce à ces fédérations que les radios associatives travaillent avec des radios un peu partout à l'étranger. Azur FM est jumelée avec la radio Oxygène à Pikine, dans la banlieue de Dakar au Sénégal. Et puis j'en profite pour rappeler que Divergence FM est jumelée depuis presque 10 ans avec Radio Tabalé. C'est à Bamako, au Mali. Fin de ce générique digne d'Hollywood. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le programme des émissions à venir aujourd'hui sur Divergence FM. A bientôt. Ciao.
Mandela.